Arrêtez les voleurs de sommeil. Si vous avez déjà eu l'occasion de lire mes précédents livres, vous verrez que j'y parle toujours à un moment ou à un autre du sommeil. Je me sens donc obligé d'écrire un chapitre à ce sujet dans celui-ci aussi. Sinon, j'ai peur de casser un rituel qui fait que je m'entends si bien avec Marianne et Laura, mes éditrices. Évidemment non, je n'ai pas de biais de superstition. Pour autant, il vous semble peut-être étonnant de trouver une partie sur le sommeil dans un livre sur la manipulation. Je dois vous avouer que j'ai réfléchi avant de l'écrire pour peser le pour et le contre de sa légitimité. Mais je suis, à titre personnel donc, trop touché par le sujet pour faire l'impasse dessus. Le sommeil est l'un des éléments les plus importants pour le cerveau. Dit comme cela, ça n'est peut-être pas une grande nouveauté. Mais nous surestimons tous notre capacité à récupérer lorsque nous dormons peu. L'INSERM a, en 2017, publié une étude montrant que nous dormons 1h30 de moins par nuit qu'il y a 50 ans. Cette même étude révèle qu'une personne sur trois est, en France, sujette à des troubles du sommeil. Un mauvais sommeil engendre évidemment des risques pour la santé en général. Néanmoins, on oublie l'impact direct que les courtes nuits ont sur notre cerveau. Tout d'abord, nous savons depuis 2019, grâce aux recherches de la neuroscientifique danoise Maiken Nedegaard, comment fonctionne le traitement des déchets du cerveau. Jusqu'alors, c'était un grand mystère. Cette équipe a établi, grâce aux dernières trouvailles techniques en termes d'imagerie du cerveau, que le liquide qui entoure le cerveau, le liquide céphalo-rachidien, se chargeait la nuit de passer dans tous les recoins de notre tête pour collecter les déchets et les éliminer. Ce principe, appelé le système lymphatique, est au maximum de son efficacité durant nos heures de sommeil et favorise entre autres l'élimination des déchets tels que les protéines bêta-amyloïdes qui jouent un rôle dans le fléau qu'est la maladie d'Alzheimer. Le sommeil favorise également la maturation cérébrale. De bonnes nuits reposantes favorisent l'augmentation des épines dendritiques, des sortes de petites extensions sur les neurones qui se connectent directement aux autres neurones autour pour faire circuler la pensée plus rapidement. Mais recentrons-nous sur le sujet. Pourquoi la manipulation et le sommeil sont intimement liés? Premier point. Pour votre capacité à être vigilant, à identifier une situation de manipulation et à faire preuve d'agilité mentale pour lutter contre cette intrusion mentale. La fatigue ronge votre capacité d'analyse autant que votre patience, et vous serez plus à même de vous laisser manipuler par quelqu'un qui veut prendre des décisions à votre place tant vous vous sentirez soulagé. Ça n'est pas pour rien que les techniques de torture, malheureusement employées depuis toujours, incluent dans leur package la privation de sommeil, qui rendent les victimes beaucoup plus dociles tant elles perdent leur envie de libre arbitre. Second point. Parce qu'une manipulation non désamorcée engendre, au moment de l'endormissement, une activité cérébrale pouvant entraîner une insomnie. Insomnie qui jouera sur vos capacités cognitives le lendemain, le début d'un cercle vicieux vous privant de sommeil. Je parle de cela en connaissance de cause. J'aime jouer avec mes capacités physiologiques. J'ai donc exploré les différentes manières de dormir en m'inspirant des marins solitaires ou des militaires. J'ai également un besoin relatif au sommeil, car, me connaissant en profondeur, je sais comment faire pour qu'une nuit de 4 heures ne m'impacte que peu le lendemain. Par contre, je suis sujet à la réflexion pré-endormissement, des pensées qui me viennent et qui m'accompagnent lentement dans les bras de Morphée. Mais lorsqu'une partie de ces pensées détecte une anomalie, elles commencent à danser dans mon esprit, à établir des hypothèses et font la rumba dans mon cerveau toute la nuit. Les lendemains sont douloureux. Les manipulations, subtiles ou frontales, fabriquent ce terrain anxiogène sur lequel votre pensée se met à gambader. Et je pense que vous connaissez malheureusement des moments où vous vivez la même chose. La seule alternative qui peut vous soulager est de vous confronter à cette manipulation ou ce mensonge le lendemain. Vous devez faire preuve de courage et affronter, sans ménagement, la personne qui a tenté de vous manipuler la veille. C'est tout un pan de votre santé qui en dépend. C'est également votre pleine capacité cognitive qui est en jeu. Cette personne peut être un proche ou une personne très éloignée. Vous devez la contacter et remettre la discussion en route, ou tout ce que vous avez perçu comme faisant partie d'une manipulation, pour mettre carte sur table. Cela demande parfois du courage, car vous devez faire tomber des politesses sociales, mais je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas parce que c'est vous qui entamez la conversation qui dérange que c'est vous qui êtes à l'origine de cette situation. Vous êtes au contraire en train de vous guérir d'un poison que l'on vous avait injecté. Alors certes, sur le papier, ce conseil a l'air simple à suivre. Et je vais être honnête en vous disant que même moi, je n'ose pas toujours le faire tant il est plus confortable de vivre en dehors du conflit. Mais vous vous rendrez un grand service en affrontant ces moments quand ils doivent avoir lieu, quand vous êtes certaine ou certain de votre légitimité. Le plus efficace étant, quand vous détectez une manipulation, de la désamorcer immédiatement pour vous endormir sereinement en fin de journée.